Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jiggy da, kani jiggy mi senya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Si vous êtes de fins connaisseurs de l'histoire du jazz, vous avez forcément reconnu ce classique signé Miles Davis et enregistré le 2 mars 1959, il y a donc 60 ans, au studio Columbia à New York. Il s'agit évidemment de So What. Le célèbre trompettiste et ses musiciens vont alors écrire un chapitre éminent de l'épopée des musiques noires. Ce disque qu'il concocte ce jour-là s'appelle Kind of Blue. C'est aujourd'hui l'album jazz le plus vendu à travers la planète. Comment expliquer cet exploit? Durant cette émission, nous allons essayer de percer le mystère de cette musique ensorcelante qui a suscité tant de commentaires, de louanges, d'analyses et de fascinations. Pour cela, nous allons utiliser notre machine à remonter le temps et nous retrouver ce fameux 2 mars 1959 dans le grand studio de Columbia Records sur la 30e rue à New York.
Here we go. Well, 062-291. Number 2, take 1.
Wait 1 minute.
Take one. Start again, please.
La musique que produit Miles Davis en ce mois de mars 1959 n'a pas été répétée. Des ajustements sont donc nécessaires pour que les musiciens qui entourent le trompettiste parviennent à mettre en forme les quelques indications du chef d'orchestre. Comme vous l'entendez, le producteur Irvin Townsend n'est pas satisfait du résultat. La caisse claire du batteur Jimmy Cobb vibre et provoque des nuisances sonores qui altèrent la délicatesse voulue pour ce disque. Miles Davis n'y voit pas d'inconvénient, mais il faudra plusieurs prises pour parvenir à une interprétation idéale.
All right. Not all the other noises, though. Take two.
Thank you.
Pourquoi ce disque Kind of Blue est-il révolutionnaire? Pour répondre à cette question, il faut remonter encore un peu dans le temps. Depuis 1957, Miles Davis travaille avec un arrangeur du nom de Gil Evans. Avec lui, il produira trois albums, Miles Ahead, Porgy and Bess et Sketches of Spain. Ces enregistrements-là propulsent le son de Miles Davis dans une dimension classique somptueuse où le jazz se mêle aux cordes d'un orchestre classique. À cette époque, Miles Davis veut élever son art au rang des grandes formations académiques. Il veut prouver que le jazz africain-américain a autant de valeur que le répertoire classique européen. Cette volonté farouche d'être respecté remonte à sa petite enfance. Son biographe et ami Quincy Troup nous éclaire sur la psychologie du personnage. Son père était un dentiste réputé, la deuxième fortune de la communauté noire dans l'état de l'Illinois. Il avait une belle maison à Saint-Louis, une ferme, des chevaux, des cochons, des vaches, mais il était un homme noir dans l'Amérique blanche. Très tôt, il a mis en garde le petit Miles Davis en lui répétant « Tu es noir, il va falloir te battre pour exister, personne ne le fera pour toi ». Son père était un fidèle disciple de Marcus Garvey, tandis que sa mère était plus docile et modérée dans ses propos. Elle était membre d'une association, la NAACP, qui prônait la non-violence et l'égalité raciale. Elle tempérait les ardeurs de son époux et les disputes à ce sujet étaient nombreuses dans la famille Davis. Miles a donc hérité de la force de caractère de son père. Quand il est arrivé seulement troisième ou quatrième du concours de trompette lors d'un tremplin organisé dans tout l'Illinois, il était furieux de constater que des petits blancs avaient été privilégiés alors qu'ils ne savaient pas jouer le jazz. Clark Terry, qui était un bon ami, m'avait dit un jour « Miles Davis était un génie dès le début ». Il surpassait tous ses homologues jazzmen. Lorsqu'il a vu ses piètres concurrents passer devant lui lors de ce concours, il n'en revenait pas, il fulminait, il m'en a souvent parlé. Il me disait « J'aimerais savoir ce que sont devenus ces fameux virtuoses de la trompette que l'on a élus à ma place à l'époque. Où sont-ils ces petits blancs si talentueux? Où sont-ils ?» Ainsi, en proposant une musique toujours plus sophistiquée, Miles Davis semble prendre une revanche sur le passé, sur ses frustrations de jeunesse, et place la barre très haut, comme un défi à ses éventuels concurrents. Lorsqu'il entreprend l'enregistrement de Kind of Blue, Gil Evans, son arrangeur fétiche, n'est pas là. Miles requiert donc les services d'un pianiste capable d'imprimer cette tonalité classique qu'il recherche. Il fait appel à Bill Evans pour donner du relief à son œuvre. Retournons en studio ce 2 mars 1959. Il ne faudra que quelques prises pour que Miles Davis, soutenu par le mélodieux touché de Bill Evans, inscrive ce titre « Blue and Green » dans le patrimoine jazz indémodable. Vous écoutez actuellement ce que l'on peut considérer comme l'une des plus belles compositions de l'histoire du jazz. Blue in Green, extrait de Kind of Blue. L'humeur et l'atmosphère de ce titre et de ce disque tout entier ont été souvent étudiés par des musicologues éclairés. Les spécialistes indiquent que cette musicalité si mélancolique est un mélange de blues et de jazz modal. Ce terme, que je n'essaierai pas de définir ici tant il faut des connaissances harmoniques aiguës, est en tout cas ce que les oreilles savantes perçoivent à l'écoute de cet album légendaire. Laissons plutôt un disciple de Miles Davis, le trompettiste Wadada Leo Smith, nous donner sa lecture du jazz dit modal et nous parler de son mentor, Miles Davis.
He could play it any kind of way he wanted to play it.
Il était capable de jouer toutes sortes de musiques. Il a redéfini les codes du jazz à la trompette. Il se permettait de laisser traîner les notes très longtemps lorsqu'il jouait acoustique. Le blues était la seule forme d'expression suffisamment libre pour lui permettre de contourner les règles. Et puis le blues s'articule autour du premier et du cinquième temps. Au milieu, vous pouvez vous adonner à toutes sortes d'improvisations. C'est la liberté d'interprétation que vous offre le blues. Miles a donc immédiatement assimilé ce langage musical car il lui permettait d'être libre et de produire cette sonorité spécifique inhérente au blues.
One of the great ideas about freedom with this peculiar sound, you know, of the blues.
Il y a en effet une tonalité blues sur ce disque. D'ailleurs, « kind of blue » signifie « une sorte de blues », une sorte de langueur qui identifie immédiatement cet album historique porté par des instrumentistes de grande valeur comme John Coltrane, Julian Cannonball Adderley, Wynton Kelly, Bill Evans, Jimmy Cobb et Miles Davis évidemment. Sans oublier Théo Macero et Irvin Townsend, les producteurs. La force de ce chef-d'œuvre, c'est aussi la cohésion indiscutable des musiciens et ce son qu'un studio presque trop grand a rendu intemporel. Le regretté batteur Elvin Jones, partenaire de John Coltrane et ami de Miles Davis, a toujours su que le trompettiste était un artiste hors norme. J'ai très bien connu Miles Davis. Toute sa vie, il fut en avance sur son temps. Heureusement pour nous, il a apporté une contribution essentielle. Il nous a ouvert les yeux quant aux différentes possibilités qui s'offraient à nous. John Coltrane et Duke Ellington ont également apporté quelque chose à leur manière. Ce furent des musiciens révolutionnaires, uniques. Évidemment, nous pourrions citer beaucoup de noms, mais peu reste à nos yeux des personnages hors du commun. Comme Miles Davis. Grâce à eux, nous pouvons aujourd'hui avoir un œil tourné vers l'avenir.
Miles is an outstanding artist. We can all be breathe a little easier and have another lease on the future because of that.
Elvin Jones le précisait il y a un instant, écouter la musique de Miles Davis n'est pas empreint de nostalgie. Miles Davis refusait d'ailleurs de regarder dans le passé. Il voulait avancer encore et toujours, innover sans cesse et se surprendre lui-même. Il accepta cependant une seule et unique fois de réinterpréter quelques-unes des compositions qu'il avait enregistrées à la fin des années 50. Cela se passait à Montreux en Suisse le 8 juillet 1991 à l'invitation de son ami Quincy Jones. Ce jour-là, Miles Davis se penchait à nouveau sur ses œuvres passées. Quincy Jones n'oubliera jamais ce moment de grâce qu'il eut le bonheur de diriger. C'était quelque chose de voir Miles Davis à 65 ans se débattre avec une musique qu'il n'avait pas jouée depuis l'âge de 25 ans. J'avais assisté à la session d'enregistrement originelle. Il avait enregistré Coup sur coup, Kind of Blue et Miles Ahead. Je revois encore John Coltrane et Cannonball Adderley découvrant les partitions de Kind of Blue. Quelques 60 ans plus tard, ces albums sont devenus des classiques et honnêtement, on n'a pas fait mieux depuis. Lors du concert à Montreux, c'était la première fois que je voyais Miles Davis sourire au public. Il était heureux et j'étais enchanté de lui avoir apporté cette joie. Lors de ce concert à Montreux le 8 juillet 1991, Miles Davis, 65 ans, était secondé par un jeune trompettiste du nom de Wallace Roney. À l'issue de cette soirée historique, Miles lui offrit sa trompette, comme un passage de flambeau de l'ancienne à la jeune génération. Wallace Roney a aujourd'hui 58 ans, mais se souvient parfaitement de ce cadeau très symbolique.
Tony Williams told me long time ago. Miles gave it to you.
Tony Williams m'avait dit il y a bien longtemps, Miles te l'a donné parce qu'il savait que tu en serais digne. Pendant longtemps, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Tout le monde me tombait dessus. Mais Miles n'avait pas l'air inquiet de cette situation. Miles connaissait mon parcours. Il me répétait sans cesse, continue, ne t'arrête pas, je t'écoute. Tu dois poursuivre ta route. Ne les laisse pas décider à ta place. Ils ne te laisseront pas jouer à ta façon. Miles n'aimait pas les clones. Et il existe tant de musiciens qui cherchent à entrer dans la peau de Miles. Là, j'ai compris son message et j'ai fait le choix de ne pas fuir l'influence de Miles, mais de m'en servir pour proposer ma vision des choses, pour exprimer la manière dont j'entends la musique. Miles est le musicien qui m'a le plus influencé. C'était un poète à la trompette. Je veux m'inspirer de cela, mais ce n'est pas parce que vous admettez lui devoir énormément que cela vous oblige à reproduire ses solos à la note près. Vous avez plutôt intérêt à utiliser ces éléments qui ont fait de lui un poète du jazz pour développer votre son. N'oubliez pas que lorsque j'ai joué à ses côtés à Montreux, je connaissais déjà Miles depuis 1984. Nous étions sur scène comme un père et son fils, comme Louis Armstrong et Joe Oliver. Mais certes, c'était la première fois que je jouais en public avec lui. J'avais déjà jamé en privé ou en répétition à ses côtés, je l'écoutais jouer. J'étais toujours dans un coin à l'observer, mais jamais nous n'avions partagé la même scène ensemble. Chez lui, parfois, il se mettait au piano pour me voir jouer. Mais ce concert à Montreux fut incroyable.
Tenderoni.
Si Miles Davis a été un sacré défricheur, toujours prompt à se remettre en question, pouvoir réécouter aujourd'hui ses enregistrements d'autrefois et capter son évolution progressive est une chance que les archivistes du label Columbia nous offrent à travers les rééditions régulières des albums légendaires du trompettiste. Kind of Blue, enregistré en deux séances, les 2 mars et 22 avril 1959, a donc 60 ans. Nous vous conseillons bigrement de vous procurer le coffret CD-DVD reparu récemment, mais aussi les autres albums conçus durant les années 50, notamment Miles Ahead, Milestones, Porgy and Bess et Sketches of Spain, entre autres, des sessions de studio auxquelles Quincy Jones avait assisté à l'époque. Lors d'une conférence de presse en 1993, il se remémorait ces années 50 et les géants du jazz d'antan qui conditionnèrent sa vie future.
Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, they just ruled my whole soul and brain and everything else.
Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie ont transformé ma vie. Gamin, j'essayais de savoir qui ils étaient. Nous n'avions pas de télévision à la maison. Tout ça pour vous dire que je connais Miles Davis depuis bien longtemps. Petit à petit, j'ai réussi à le convaincre de regarder en arrière, chose qu'il ne voulait pas faire. S'il y a un album que j'emmènerais sur une île déserte, ce serait Kind of Blue, ou plus encore, Miles Ahead. C'est pour moi la musique classique du XXe siècle. Les arrangements de Gil Evans et le son de Miles à la trompette dépassent l'entendement. C'est purement magique. J'étais présent lors de l'enregistrement original sur la 30e rue à New York. J'avais l'impression d'être un drogué tant cette musique me faisait planer. Bref, en 1990, Claude Knops, le patron du festival jazz de Montreux, a finalement convié Miles Davis à un dîner pour bavarder et le convaincre de rejouer ses œuvres d'antan sur scène. La réaction de Miles fut immédiate. « Ça va vous coûter très cher de monter un tel projet. » Claude Knops lui a précisé qu'il avait en permanence à Montreux 2 orchestres de jazz. Alors il a tenté une autre excuse. Oui, mais cette musique est si difficile à interpréter. Au bout de quelques semaines, il s'est fait à l'idée. Il est arrivé 2 jours avant les premières répétitions et ce fut merveilleux de voir ces grandes formations se mettre à disposition de Miles. La sonorité des cuivres était époustouflante et les musiciens ont su créer un tapis sonore harmonieux pour accompagner le souffle de Miles Davis. Pendant les répétitions, il a laissé Wallace Roney prendre sa place plusieurs fois au pupitre de soliste parce qu'il n'était pas certain de pouvoir assurer pleinement son rôle lors du concert. Chaque fois que Wallace Roney commençait un solo, Miles s'asseyait, l'observait et il disait « Ok, je vois où tu veux en venir ». Pour lui, c'était comme redécouvrir un répertoire oublié depuis 25 ans et réapprendre la complicité entre musiciens. Ce fut l'une des plus inoubliables soirées de mon existence. Et tous ceux qui ont été témoins de ces séances de répétition en gardent un souvenir impérissable. Quand nous avons réalisé que Miles commençait réellement à s'investir et à retrouver son inspiration d'autrefois, nous avons compris que c'était gagné. Miles n'a jamais été aussi heureux qu'à ce moment précis de sa vie. Il était flamboyant sur scène, il souriait, il voulait que ce concert soit entendu et apprécié dans le monde entier. Il nous était impossible d'imaginer que 2 mois plus tard, il nous quitterait. C'est une soirée que je garderai en mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Montreux est de surcroît le seul endroit où cet événement pouvait avoir lieu. Claude Knops a mis les petits plats dans les grands pour que tout se déroule parfaitement. Des artistes comme Miles, Duke, Bird ne disparaissent jamais. Ils sont toujours là. Miles, aujourd'hui, on peut le voir et l'entendre comme s'il était encore parmi nous. Mais je suis malgré tout triste qu'il soit parti.
Et des artistes comme Miles, Duke Ellington, Bird, ils ne vont jamais. Ils sont toujours avec nous. Vous pouvez le voir et vous pouvez l'entendre. It's just like he's here right now, you know. I'm sorry he's gone.
Quelques notes de Freddie Freeloader, Miles Davis en 1959, extrait de Kind of Blue. Et preuve que cette musique-là continue d'inspirer les créateurs d'aujourd'hui, nous vous signalons la sortie de So Miles du trompettiste français Nicolas Folmer, qui rend dignement hommage à son aîné sur ce disque très réussi. Et si vous nous écoutez à Paris, Nicolas Folmer présentera son album So Miles les 29 et 30 mars au Sunset à Paris. Un autre trompettiste, un poil plus funk, vous donne également rendez-vous au Sunset prochainement. Il s'agit de l'excellent Bonnie Fields qui interprétera des extraits de Bum City, son dernier album en date, le 16 mars. Et je terminerai avec le festival Jazz de Mars qui se tient en Eure-et-Loir au sud-ouest de Paris jusqu'au 30 mars avec notamment Laurent de Wilde et son New Monk Trio, le groupe de blues créole Delgrès qui fait sensation avec son album Mot Jody. Et j'ajoute qu'un ami de l'épopée, le photographe Christian Rose, exposera ses plus beaux clichés jazz à Chartres jusqu'au 6 avril. Plus d'infos sur jazzdemars.com. La semaine prochaine, nous évoquerons un grand personnage disparu il y a bientôt 20 ans. Il s'appelait Curtis Mayfield. Il fut un chanteur de soul engagé dont les premiers albums solo viennent d'être réédités dans un coffret intitulé Keep On, Keepin' On, paru chez Warner. Merci à Nathalie Laporte qui a passé des heures à réécouter, sélectionner, dépoussiérer les archives de Miles Davis. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
Miles, where are you going to work now?
Right here.
Okay, because if you move back, we don't get you. You were right when you played before.
When I played, I'm going to raise my horn a little bit.
Okay.
Can I move this down a little bit?
It's against policy to move a microphone.
Trustee Main.
Here we go. Ready? Number two.